Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Manger, manger sain, manger frais, manger...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les mardis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger
les mardis.
Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt, vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Le bruit des bisous.
Où va-t-on, mon cher ami?
On va dans un haut lieu du patrimoine montpelliérain.
Le Rockstore, que
eh oui.
Tout le monde connaît, toutes les générations connaissent, parce qu'avant qu'il y ait cette Cadillac bien plantée dans le mur, il y avait plein d'autres activités qui se sont faites ici.
Tu m'étonnes, ça a été l'église de la stricte observance, des jésuites qui n'étaient pas rigolos du tout. Et ça a duré des années, hein,
ouais.
Avec tous les gens qui combattaient les hérétiques, des albigeois, tout ça. Et puis après, c'est devenu un temple protestant. Alors du coup, ça avait basculé complètement du côté des hérétiques.
Ça a été aussi un cinéma.
Ça a été un cinéma, mais bien avant ça, il y a eu des choses très très drôles. Bien avant d'être un cinéma, tu sais que c'est là où, par exemple, a été enterré le père de Napoléon. Et d'ailleurs, un des premiers films qui a été projeté là, à l'Odéon, en 1928, quand le cinéma a ouvert, c'est le Napoléon d'Abel Gance. Et oui, c'est incroyable. Ça a été un garage. Le premier grand garage Dion Bouton de la ville de Montpellier. C'est pour ça qu'on a une voiture plantée en plein milieu de la façade du temple.
Et aujourd'hui, le Rockstore, c'est surtout une des seules salles de spectacle en France qui reste complètement indépendante et qui a une vraie importance. C'est la salle où sont passées à peu près toutes les pointures du rock'n'roll et de l'électro à Montpellier. Aujourd'hui, un nouveau projet de salle, il y a la très grande salle, mais ça, il y a des formats qu'ils ne pourront pas faire et le Rockstore va garder son importance. Et le Rockstore a été menacé il y a quelques temps, mais la ville est intervenue.
La ville est intervenue, elle a racheté les murs du Rockstore pour permettre à la SARL Rockstore de pouvoir continuer ses activités. C'est en tout cas ce qu'elle a dit lorsqu'elle les a rachetés. Et pour le moment, elle tient ses engagements, on verra ça. Mais en tout cas, le Rockstore est sauvé dans ses murs. Ça aurait été une énorme faillite de la vie culturelle montpelliéraine si le Rockstore avait dû circuler.
On vous propose dès maintenant... trois volets consacrés à ce lieu. On va rentrer dans les entrailles, dans la tambouille, dans ce qui en interne fait vivre ce lieu. Parce que, avant tout, il y a des gens qui travaillent toute la journée, c'est pas que la nuit.
C'est vrai.
C'est parti.
Au théâtre en concert à Montpellier. Au théâtre, samedi 4 juin à 19h30. Au théâtre.
Les débuts du Rockstore, c'est quoi?
Au départ, c'était une association entre des producteurs de concerts et une radio. C'était l'association du démarrage. Donc on était quatre associés, deux représentants de chaque partie, en gros. Et l'idée, c'était justement de faire des concerts. Donc ça, les producteurs de concerts, c'était des gens qui faisaient de gros concerts, mais qui étaient intéressés pour avoir une salle.
Philippe Vinding, dit Fifi.
Qui avait fait venir à Montpellier Pink Floyd, Springsteen, U2, bon, j'en passe, quoi. Et donc, avec qui nous, on s'était bien branchés, parce que justement, on avait la radio et qu'on travaillait avec eux, on était partenaires sur beaucoup de choses. À cette époque-là, il n'y avait pas tous les réseaux comme aujourd'hui. C'était plus facile pour une radio locale de s'intégrer dans des événements locaux, disons. Et donc, on avait sympathisé et on cherchait un lieu pour associer les deux. Il se trouve que nous, en ce moment-là, on était en rupture avec Midi Libre, puisqu'on était avec Midi Libre à cette période-là, qui préférait énergie. Donc, comme on était en rupture, on voulait quand même continuer à Alligator. Et donc, on s'est associé. Donc, il y avait d'un côté la radio, de l'autre côté les concerts. Ça, ce sont les piliers du Rockstore. À partir du moment, à partir de ce moment-là, les choses sont passées presque un peu disons d'une manière naturelle, c'est-à-dire que petit à petit on a fait des soirées qui duraient après, puis bon, on était imprégnés tous du même esprit qui était un esprit rock à ce moment-là. C'était pas comme aujourd'hui, ça existait pas encore non plus, il y avait pas beaucoup de lieux de diffusion, et puis avec la radio ça faisait un côté tout à fait original. Donc il y a Olivier qui était à cette époque-là déjà à la radio et qui est venu au Rockstore, et moi qui sommes les deux derniers de Radio Alligator à travailler au Rockstore vraiment.
À ce moment-là, le lieu, c'était déjà le Rockstore ou c'était encore le Grand Odéon de Philippe Conti?
Quand on l'a repris, c'était le Grand Odéon, mais le Grand Odéon était fermé déjà depuis 4-5 mois. Et quand on a réouvert, c'est devenu le Rockstore.
À quel moment la Cadillac s'est plantée dans le mur?
En 86, en septembre 86, vraisemblablement, puisque c'était très très peu de temps avant l'ouverture de la salle, comme on avait ouvert début octobre, c'était sûrement à ce moment-là.
Because honey, it ain't your money. Cause sugar, I got plenty of that. I love you for your pink Cadillac. Crush velvet seats, riding in the back. Oozing down the street, waving to the girls. Feeling out of sight, spending all the money on a Saturday night. Hey, I just wonder what you do there in the back of your pink Cadillac.
Ça devait créer un rythme infernal d'avoir la radio en plus.
Disons qu'à ce moment-là, le Rockstore était ouvert de 7h du matin, parce qu'on commençait à prendre l'antenne à 7h du matin. Et donc on avait au début, le Rockstore était ouvert le matin, il y avait même le café qui était ouvert. Puis petit à petit on a commencé à l'ouvrir à midi, puis finalement à 6h. Quoi. Et on restait ouvert jusqu'à, pas obligatoirement tous les soirs jusqu'à 4h du matin, puisque à cette époque-là la discothèque fonctionnait moins peut-être, enfin fonctionnait moins, on n'avait pas un axe tout à fait pareil. Et voilà, c'était comme ça. Puis peu de temps après, vite, quand la discothèque a commencé à tourner à plein régime, très souvent les gens qui finissaient la nuit voyaient l'animateur qui arrivait le matin. Quoi. C'était, donc ça faisait du 24h sur 24.
Il y avait d'autres discothèques à l'époque, en centre-ville.
Oui, tout à fait. Voici. Bon, après, il n'y avait pas de scène non plus, tout un tas de cafés qui faisaient des concerts, donc qui amenaient des groupes. Et quand tout le monde a commencé à faire des concerts gratuits qui étaient en plus retransmis sur la radio, c'était vraiment quand même quelque chose d'un peu nouveau, même en France. Quoi. Beaucoup de gens regardaient à ce moment-là, puisque les concerts étaient gratuits, mais les concerts, il y avait les groupes locaux qui étaient locaux, nationaux, qui étaient un peu l'épine dorsale. Mais il y avait beaucoup de groupes qui étaient. On travaillait beaucoup avec la radio, avec les maisons de disques, et beaucoup de groupes qui étaient en promotion voulaient jouer, comme ils savaient qu'ils ne feraient pas 500 personnes sur un concert payant, ils préféraient faire une promo, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un showcase, mais qui était de vrais concerts, les faire comme ça, et très souvent d'ailleurs on les retransmettait à la radio.
Aujourd'hui, avec la rigidité de plus en plus croissante au niveau des droits de rediffusion, est-ce que ça sera encore possible d'avoir un outil comme ça pour le Rockstore?
Oui, il faut qu'il y ait une volonté de tous les intervenants, c'est-à-dire à la fois des artistes, mais qui n'étaient pas contre, on a retransmis des trucs, alors qu'on avait les gars au début étaient très pénibles au niveau des moyens de diffusion, nous demandaient ce qu'on avait, on avait juste un in and out, c'est-à-dire deux lignes pour retransmettre le signal qui venait de la console, et les gens étaient, les producteurs étaient un peu méfiants, et puis quand ils entendaient ce qui sortait à l'antenne, bon, il s'est passé. On a eu des musiciens de jazz qui étaient un peu, qui sont toujours un peu pointilleux sur le son qui va sortir, et des grands et qui ont accepté qu'on retransmette deux morceaux. Et souvent, on voyait qu'au bout de un ou deux morceaux, des gens arrivaient. J'ai entendu le morceau à la radio, j'ai entendu ça à la radio. Je vais me voir le concert.
une période où il y avait tout. Il y avait un restaurant. Il y a eu un studio d'enregistrement, je ne me rappelle plus.
Non,
pas vraiment.
Non.
Mais il y avait le restaurant en haut, le bar, la radio, la salle de concert. C'était, il n'y avait pas beaucoup de lieux comme ça en France.
C'était un peu unique, non, je pense.
Laurent Sauvagnac, dit Fargue.
Après, le concept, il a été repris dans pas mal d'endroits, mais c'était un peu unique. On avait un café de jazz à l'étage à une époque. Le restaurant sur le balcon où tu pouvais voir les concerts. C'était rigolo.
Là, c'était quoi ? C'était un peu une utopie d'une bande. Vous étiez dit, on va faire un lieu total, quoi. C'est unique.
Petit à petit, les choses s'imposaient. Quelqu'un nous proposait le restaurant. On a dit, on va faire le restaurant. Après, ça a fait grincer des dents. Donc, on a été obligé de le faire. Mais il y avait quelques artistes qui ne voulaient pas avoir de personnes qui mangeaient en même temps que le concert avait lieu. Alors, certains producteurs ne faisaient occulter les vitres qu'il y avait pour protéger et pour pas que les gens voient le concert, parce que bon, voilà. Mais bon, dans l'idée, ça marchait quand même assez souvent, quoi. C'était tout à fait jouable, quoi. Après, derrière, bon, au fur et à mesure, on a eu un tatoueur, parce qu'un jour, un des gars qui montait le Rockstore a décidé d'ouvrir, a demandé s'il pouvait monter un cabinet de tatouage. C'était dans les années, au début 90, quoi. Hein. Et donc, on avait un tatoueur qui se faisait les après-midi. Il était rôde, en fait, mais il venait les après-midi de 2h, 14h à... Bon, des fois, il restait toute la nuit, qui tatouait les gens. Juste à côté de notre bureau, il y avait une petite cabine qui tatouait les gens. Il y a eu Little Bob qui s'est fait tatouer, des artistes qui venaient, comme ça, qui voyaient le tatouage. Bon, c'est pareil, des tatoueurs, il n'y en avait pas à tous les coins de rue. Et lui, en plus, il n'était pas mauvais, connu, quoi. Enfin, et voilà.
Radio Alligator, 89.9. Les auditeurs ont la parole.
C'est quoi les très grands souvenirs de l'époque Alligator ?
Non, il y en a énormément. On a eu beaucoup de souvenirs parce que dès qu'un artiste passait, on le prévenait dès qu'il arrivait, qu'il y avait la radio qui marchait, etc., etc. Que pendant qu'il ferait la balance, on couperait nous le son, on enverrait des disques à ce moment-là, on enverrait plus de... Parce qu'on était quand même avec une proximité. La radio était à la fois dans la salle et sur l'extérieur. Donc on faisait comme ça, mais l'artiste venait après la balance systématiquement faire une interview à la radio. Donc on avait tous les artistes qui passaient au Rockstore qui venaient, eux ça les arrangeait bien. Et bon, on a eu des moments très sympathiques quand Lenny Kravitz il fait animateur radio, c'est-à-dire il nous demande comment ça marche, on lui explique, on lui montre la technique qui n'est pas bien compliquée, et hop, il fait une heure d'émission.
My pockets were full. Now my money's gone. My friends come around and now they're gone. Things come and they come and then they go. And where they go, nobody knows. It's gonna come around. What goes around comes around. It's gonna come around. What goes around comes around. My cup overrunneth with fullness and grace. Yet people push bullshit in my face. The future can't hold what your money can't buy. My brother keeps driving, your child relies. It's gonna come around.
Un jour, on a eu les Cramps aussi, qui ne venaient pas en concert. Ils viennent juste pour faire une interview à la radio. Donc, une interview, parce que de temps en temps, on avait aussi des groupes qui venaient, qui n'étaient pas en concert, qui venaient faire des interviews, puisque la radio recevait beaucoup de monde à ce moment-là. Et pour les Cramps, il y avait 300 personnes. Eux, ils avaient pris peur. Ils avaient demandé de sortir par derrière, tellement les gens étaient devant eux. Et tout le monde était dans le café à l'entrée. On n'avait même pas réussi à rentrer tout le monde. Et il y avait les Cramps qui étaient derrière la vitre et qui prenaient peur de voir tous ces gens qui les regardaient. Qui... Well, everybody's heard about the bird. But I Donc les souvenirs, bon, puis il y a des mauvais souvenirs quand la radio s'est arrêtée ou des choses comme ça. Quoi.
Bah justement, ça, pourquoi c'est arrêté?
Ben ça s'est arrêté parce que l'ancien fondateur de la radio, qui était François Jassin, un jour a décidé de la vendre, voilà.
Aussi simple que ça.
C'est pas aussi simple que ça, mais disons-le comme ça.
C'est devenu quoi, toutes ces perles, là, toutes ces bandes? Il y a un fond comme ça d'archives dans lesquelles les gens peuvent aller piocher?
Non, il y avait beaucoup moins d'archives à cette époque. On a quelques bandes de Revox, mais bon... sont d'être pas très exploitables aujourd'hui.
Ça a changé. La dernière fois, on a essayé d'en écouter, c'était pas... Elles se sont mal conservées.
Vous n'aviez pas pensé des conditions optimales de conservation?
C'était quoi les conditions optimales de conservation?
Au frais, une chambre noire. Non, là, elles sont restées dans la cuisine pendant 5 ans et forcément, après, c'était moins bien.
Ça a été une grosse claque, l'arrêt de la radio? Ça a presque...
Ah oui,
qu'est-ce que ça a déclenché en vous?
Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait deux piliers, il y en a un qui tombe. Alors c'était quand même... Puis la radio, c'était un moyen de communication, un moyen de promotion des concerts, mais en même temps, c'était tout un esprit. Il y avait les gens, ils venaient, des gens venaient nous voir à la radio, rien que parce qu'il y avait la radio. Bon, les gens venaient voir des concerts parce qu'ils entendaient la musique à la radio. Nous, quand on avait un concert un peu délicat ou difficile... on programmait ça pendant toute la journée, 10 fois par jour on programmait, et finalement ça devenait des tubes presque locaux, presque que sur Montpellier. Radiohead, quand on a fait le premier concert qui était un concert gratuit, les gens ils connaissaient le morceau, ils sont venus en nombre parce qu'ils avaient entendu. Donc ils s'étaient rendu compte qu'il y avait de la qualité et que ça valait le coup de venir à un concert gratuit.
C'était quoi le morceau? C'était
Creep.
Ah ouais.
Voilà.
L'antenne.
C'est quoi? C'est que t'aimes pas parler dans le micro, c'est
pas
ça?
Du tout. Voilà, j'aime pas parler dans le micro. Voilà. Je dis plus rien. Non, pas du tout, mais je faisais des nuits à cette époque-là, donc c'était difficile de... Je m'en occupais de la radio en partant le soir, j'ai renvoyé les bandes à 4h du matin, voilà, je passais quelques disques entre la discothèque ou le concert et tout ça, mais je parlais pas, c'est sûr, et je m'en occupais aussi, parce que tout le monde s'occupait de la radio. Je faisais partie, c'était un des piliers.
C'était quoi la couleur musicale dominante à la radio?
On peut dire rock, mais rock dans l'esprit. Enfin, quand je dis rock, ça allait... Bon, c'est vrai que la radio, au départ, elle était une radio rock à l'époque où ça n'existait pas vraiment, quoi, en France. Après, derrière, on a gardé bon, l'esprit. Aujourd'hui, rock, ça ne veut pas dire grand-chose. C'était... Aujourd'hui, on dirait musique actuelle, tout ça. C'est... Bon, c'est pas beaucoup mieux, hein, c'est une définition. Mais on passait beaucoup d'artistes français qui étaient les artistes du moment, tous les petits groupes, tout un tas de groupes. Même la Mano Negra, au tout début, s'est passée sur nos zones alors que c'était inconnu, des choses comme ça. Bon, on passait Taxi Girl, on passait des trucs comme ça. On passait pas de variété, c'était un peu le truc, c'était pas de variété. après, il y avait de la musique californienne, il pouvait y avoir de la musique pop.
Ça, on imagine qui c'est, la musique californienne, hein, qui était derrière.
C'est notre vieux surfeur.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Après, il y avait
aussi de la soul.
Il y a de la soul, de l'africain, du 22, de toutes les tendances de la musique, du jazz.
Dimanche au Nouveau, c'était café jazz souvent. Donc,
tous les dimanches soir.
Donc il y avait cette ambiance-là, on passait des disques de jazz.
Mais il y avait comme ça une programmation qui était beaucoup plus large que celle du Rockstore, qui brassait tout un tas de moments de la région.
C'est-à-dire que la radio était quand même relativement... Enfin, avait beaucoup d'auditeurs, quoi, en tout cas bien ciblés aussi, donc avait beaucoup d'auditeurs dans sa cible, et fatalement, beaucoup de gens venaient faire appel à nous pour être partenaires. Bon, nous, le blues, c'est vrai qu'on aimait bien ça, pour nous, c'était des musiques à l'origine de notre musique, donc on en faisait pas mal. D'ailleurs, à cette époque-là, les concerts de blues marchaient mieux qu'aujourd'hui parce que justement la radio permettait de faire connaître des artistes qui n'étaient pas vraiment connus du grand public, mais quand ils les entendaient à la radio, ils s'apercevaient que c'était quand même des pointures. On a eu des John Campbell ou des gens comme ça qu'on a fait un peu décoller. Ça, c'était vraiment c'était en osmose parfaite avec le lieu. Le lieu, il transpirait ce que la radio, c'était un peu la transpiration du lieu, quoi.
L'idée de remonter la radio vous-même, ça vous a pas effleuré l'esprit?
Si, bien sûr. Bon, enfin, plein de fois, et puis encore aujourd'hui. Mais le truc, bon, les choses ont changé au niveau déjà du paysage radiophonique. Bon, et après il y a toutes les radios internet, il y a toutes les radios comme ça, et aujourd'hui pour avoir une fréquence c'est pas aussi facile que ça, et c'est pas aussi facile. Alors, ou alors il faudrait vraiment avoir un budget relativement prévu là-dessus, monter un projet. Bon, après il y a plusieurs fois on a fait des tentatives de réavoir une fréquence, on ne nous la donnait pas aussi parce que justement la radio avait été vendue, ce qui était une chose qui était a priori interdite, mais enfin tous les réseaux de radio se sont montés comme ça, en vendant des fréquences aux grands groupes, alors que c'était totalement interdit de vendre sa fréquence. Bon, donc à partir de là, aujourd'hui, bon, c'est quand même une histoire de gros sous, beaucoup. Sinon, la passion, oui. Alors, on a pensé à faire des radios sur internet ou autre, mais bon, c'est pas la même chose non plus, quoi. La radio, elle doit être proche des gens. Enfin, écouter une radio rock à San Francisco, c'est bien sympathique, mais bon, il n'y a pas le même rapport qu'avec écouter une radio rock à Montpellier, où il y a l'actualité de la ville qui est mêlée avec l'actualité internationale. C'était nos bases.
Mais d'ailleurs, hormis ceux qui sont restés au Rockstore, tous ceux qui bossaient à Alligator ont continué à faire de la radio.
Certains ont continué, d'autres ont envie de le remonter. Souvent, des anciennes demandent si on ne remonterait pas quelque chose, etc., etc. Oui, ça c'est... Et puis, il y en a beaucoup qui aiment bien faire encore de la radio. Il y en a quelques-uns qui le font en professionnel et d'autres qui continuent à le faire plus ou moins en amateur. Enfin, en tout cas, c'est pas leur manière de gagner leur vie. La manière de gagner leur vie, quoi.
Quand la radio s'est arrêtée en 96, il y a eu cette idée que le rockstar allait péricliter ou...
Ah, bien sûr. Nous, au début, on était très contre l'idée de perdre la radio. Mais bon, c'était une volonté, donc on n'avait pas les moyens non plus de revenir derrière. Quoi, donc. Et derrière, il a fallu tout réorganiser sans la radio. Quoi.
C'est là que Laurent est arrivé, en associé, non ?
Non, c'était avant déjà, c'était en 94.
94 ?
Nous, on a repris le rockstar en 94. Enfin, on a repris. Moi, je l'avais déjà, j'étais déjà. On a remonté le rockstar, c'est-à-dire que Chassel, là aussi, quand il a vendu la radio, il voulait vendre le rockstar aussi. Et quand il a fait... Donc, nous, on avait envie de continuer, au moins le rockstar, de continuer l'aventure. Et donc, on s'est associé, on a repris le rockstar avec, à ce moment-là, en 94, donc avec Laurent, Olivier et Steph.
Page Alligator. Mais il y a eu une vie après Alligator et la vie continue toujours aujourd'hui. Ce rapport au quotidien, c'est pas trop pesant parce que ce qui est fou, c'est que vous faites une activité qui, pour la plupart des gens, est dans l'extraordinaire, c'est-à-dire c'est le loisir, on fait une grande soirée, on va voir un grand concert, c'est un grand moment et on sort de là et on reprend notre vie. Et vous, cette vie-là, c'est votre quotidien. Et quand le matin, il faut re-signer, nettoyer... Il y a quoi, cette usure du quotidien, Fargui ?
Il n'est pas vraiment d'usure du quotidien, parce que c'est jamais tout à fait pareil. On a quand même des spectacles tous les soirs qui changent, avec des gens qui arrivent, qui viennent monter leur show, et des techniciens différents. Après, c'est sûr que dans la gestion du quotidien du Rockstore, il y a toujours un petit peu des choses qui reviennent et qui sont là tous les jours. Mais on est quand même aussi dans l'extraordinaire et et du changement un peu tous les soirs.
Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez être encore surpris par quelque chose dans l'organisation? Quand on a organisé comme vous des milliers de concerts, est-ce qu'il peut y avoir encore...
On est toujours surpris, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux, on a eu un concert de reggae, et il n'y avait pas le chanteur, mais le concert a eu lieu quand même. C'est quand même extraordinaire, dans beaucoup d'autres styles de musique, s'il n'y a pas le chanteur. Et le chanteur avait loupé son avion à Londres, et voilà quoi. À l'entrée, on prévenait tout le monde, et il n'y en a que deux ou trois qui ont voulu se faire rembourser sur les 500.
Mardi, backstage.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de compliqué dans le fait qu'à vos débuts, vous correspondiez pas mal à la génération qui venait justement voir les spectacles, et petit à petit, ces générations continuent à rester aussi jeunes, c'est-à-dire finalement les publics vieillissent peu, et alors que...
Nous, on vieillit, c'est ça. Ouais. Puis voilà, une petite attaque personnelle.
Non, c'est pas une attaque personnelle, mais comment, finalement, on n'arrive pas à un truc où on se dit, un peu vieux con, on se dit, mais putain, mais quand même, tous ces jeunes, là, c'est un beau ramassis d'abrutis.
L'idée, enfin, en tout cas, moi, parce que bon, moi, puisque je suis le plus vieux, l'idée m'effleure souvent. Après, derrière, bon, moi, j'ai toujours été fait écouter de la musique depuis longtemps. Bon, je l'écoute plus de la même manière aujourd'hui qu'avant, mais en même temps, j'ai mes repères pour savoir qu'il y a toute une transition qui se fait entre les générations. Bon, et je pense que j'y suis toujours proche dans la mesure où bon, je vois toujours les concerts, et en même temps, bon, j'ai un peu de recul que j'ai plus qu'avant par rapport à certaines choses. Après, c'est sûr que j'écoute toujours de la musique que j'écoutais avant. J'écoute pas obligatoirement tout ce qui sort aujourd'hui, même si certaines fois j'apprécie, d'autres fois j'apprécie moins. Mais même sans apprécier, je peux considérer que ça peut être bon. Les artistes, ils jouent, l'équipe hop, ils jouent encore, alors...
Ils jouent avec Welbeck, il faut se poser des questions.
Plus des gens qui travaillent régulièrement, mais qui ne sont pas obligatoirement nos salariés, mais qui travaillent tous les jours. Ce sont des techniciens, la sécurité aussi, bon, parce que ce sont des sociétés extérieures ou des intermittents, mais ils travaillent tous les jours sans être, tous les jours, régulièrement, sans être des quotidiennement quoi, au boulot. Donc ce n'est pas nos salariés. Après, nous, justement aussi, on a toujours. Insister sur le fait qu'on voulait avoir un esprit aussi dans les gens qui viennent travailler. Il faut qu'ils aient un peu l'esprit justement de du rockstar, de famille, entre tout ce qui est la musique, tout ce qui est... C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de gens dont on connaissait ou les parents ou des proches. Ça tourne, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui, même si aujourd'hui... Ça a un peu changé, enfin, c'est un peu moins flagrant qu'à une certaine époque. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est l'esprit famille du rockstar.
15 permanents, c'est quoi? Beaucoup de personnes en bar?
Il y a beaucoup de personnes en bar, et puis il y a tout ce qui est sur l'administration, quoi. Essentiellement. Ouais. Les barman, DJ, tout ce qui est à l'exploitation de la discothèque, tout ça, c'est la même chose. Après cela, ils travaillent pas sur les DJ ne travaillent pas obligatoirement sur la discothèque, bien que souvent maintenant, des soirées où il y a des DJ, nos DJ sont aussi inclus dedans. Bon, après, voilà, après derrière, il y a les barman, et puis on est quand même ouvert assez souvent, puis on fait beaucoup d'heures, puis il y a tout ce qui est l'administration, c'est-à-dire la comptabilité, la préparation, la gestion, tout ce qui est en amont.
93.9 Divergence FM.
les recettes du bar et les recettes des concerts, c'est des choses qui arrivent à s'équilibrer. C'est, aujourd'hui, tu peux vivre sans vendre de la bière? Non, ça, c'est pas possible.
Non, c'était absolument... Non, si on fait des concerts, les concerts, nous, on les équilibre pas obligatoirement. Après, quand je dis on les équilibre pas en termes de concerts, si on considère les entrées, la production des concerts, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire faire imprimer des billets, les affiches, les poser, etc., plus tout ce qui est sur le jour du concert, avec les hôtels, les restaurants des groupes qu'on accueille, les personnels qu'on emploie, les techniciens, plus les rôles qu'on emploie suivant le concert, ça va de 2 à 6, 8, des fois 10, bon, etc., etc. Tout ça, on ne pourrait pas ça ne s'équilibre pas obligatoirement sur les concerts. Surtout que nous, au Rockstore, on ne produit pas tous les concerts. On produit un certain nombre de concerts. Et puis après, ce sont d'autres producteurs qui en font ailleurs, au Zénith ou ailleurs, qui font ces concerts. Et fatalement, on ne veut pas... Enfin, on les accepte, on les accueille, donc on ne peut pas se mettre en concurrence avec eux. Donc fatalement, on fait souvent des concerts aussi qui sont peut-être un peu plus... disons délicats ou un peu plus des groupes moins connus, des choses comme ça. Donc fatalement, cette activité, elle s'équilibre pas obligatoirement. On essaie qu'elle s'équilibre à peu près, mais c'est pas obligatoire. Après, c'est sûr que la discothèque, bon, c'est un peu notre... Ben, c'est ce qui nous permet de faire les concerts. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet d'investir un peu justement dans le concert. Maintenant, c'est ce qui donne aussi l'image Rockstore, son image Rockstore, c'est-à-dire que ce n'est pas une discothèque traditionnelle, c'est une discothèque avec salle de concert. C'est différent, mine de rien. Quoi. C'est, bon, le public le ressent, le public, on a un public qui est quand même particulier au Rockstore, qui ira pas sûrement dans les autres discothèques de la ville. De même que ce public des autres discothèques ne viendra pas obligatoirement chez nous. Sauf si de temps en temps, il vient y voir un artiste ou un autre. Quoi. Donc tout ça, c'est un tout. Avant, il y avait la radio en plus qui était là-dedans. Maintenant, les deux sont étroitement liés, puisque l'un sans l'autre... la discothèque sans les concerts, on serait peut-être obligé de faire une discothèque différente, c'est-à-dire une discothèque un peu plus traditionnelle, avec beaucoup plus d'efforts de déco, de choses commerciales, des choses qu'on n'a pas obligatoirement envie de mettre en place. Par contre, le fait qu'il y ait les concerts, ça nous permet de drainer notre public, donc d'avoir une identité différente. Et on le compense en équilibrant ces concerts quand ils en ont besoin.
Est-ce que l'arrivée de salles comme la Victoire 2, largement quand même financée par des institutions, en l'occurrence l'agglomération, là aujourd'hui l'Arena qui va avoir le jour, ça c'est, comment vous voyez ces choses-là ?
Victoire 2, disons qu'on s'est habitué, puisqu'ils sont ouverts 2 ans à peu près après que le Rockstore est ouvert. On a eu des périodes plus difficiles avec eux. On a des périodes, bon, moi, enfin, je veux dire, chacun fait son truc. Eux, ils ont des subventions pour, à la base, promouvoir un peu la musique d'ici et permettre aux gens d'ici de faire de la musique. Nous, à la limite, on serait... avec une image plus business. Or, il se trouve que dans la réalité, ça n'a pas été souvent le cas, en tout cas, il y a quelques années. Donc, à ce moment-là, on avait un peu de concurrence, sachant que nous, on ne pouvait pas mettre souvent le prix qu'ils y mettaient. Bon, c'est passé, ce sont de vieilles histoires. L'Arena, c'est différent. L'Arena, c'est une grosse structure. Donc, à la limite, on sera très content le jour où on verra, comme on a déjà vu, quelqu'un qui est passé au Rockstore passer à l'Arena 2 ans après. comme au Zénith, c'est ce qui paraît logique. Au Zénith, on a eu beaucoup de gens qui sont passés chez nous, qui passent au Zénith. D'ailleurs, souvent, ils continuent à passer chez nous après, à venir nous voir après les concerts, parce qu'ils ont des souvenirs de... Ou si c'est pas eux, c'est leur...
Pour boire des coups.
Voilà, pour boire des coups, voilà, c'est tout.
Il y a des fidélités d'artistes comme ça, des gens qui, finalement, seraient... sont passés au Rockstore, se sont créés aussi leur histoire via le Rockstore et qui aujourd'hui peuvent aller dans des lieux beaucoup plus gros mais continuent à vouloir...
On a des fidèles, on a des... Bon, à l'époque, il y a eu Kravitz, les deux premiers passages où il était au Zénith, il est venu au Rockstore le soir. Après, on en a un autre qui est plus surprenant, mais parce que c'est pareil, on l'a fait débuter, bien que ce soit pas du tout dans notre style. Il a démarré chez nous avec 60 ou 80 personnes, c'est Pascal Obispo. Et chaque fois qu'il est passé à Montpellier, il venait toujours dire bonjour au Rockstore, alors que c'était pas du tout dans notre profil obligatoirement musical. Après, on a Arnaud qui, dès qu'il est à Montpellier, vient nous rendre visite.
Je vais faire une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps. Donc ça s'appelle « Elle adore le noir pour sortir le soir ».
Yeah!
Alors, Hulstor, une grande qualité qui a quelquefois joué pas à votre avantage, c'est plein centre.
Ça, c'est tout à fait. Alors après, comme tu dis, c'est pas tout à fait toujours à notre avantage, dans la mesure où, bon, c'est vrai qu'on a des voisins, des voisins qui sont bien contents pour certains qu'on soit là, pour d'autres un peu moins. Avec les voisins historiques, un peu les anciens, ceux qui habitent depuis longtemps, on est habitué à vivre à côté, même si au début, il y avait de temps en temps des petits heurts ou des choses à mettre au point. Bon, c'est habitué. Après, il y a des nouveaux voisins qui sont venus, donc qui étaient un peu moins, qui avaient un peu moins conciliant, puisqu'ils arrivaient. Vous avez l'impression un peu d'avoir acheté un espace dans ce quartier. Bon, après, à vrai dire, aujourd'hui, on n'a vraiment pas trop de problèmes. Bon, je pense qu'aussi l'effet mairie, le fait que la mairie ait racheté les murs, ça compte. Mais je pense que, bon, nous aussi, on n'est pas des sauvages, on a toujours fait attention. Quand on nous a dit ça gêne à partir de telle heure, bon, on fait que les concerts, au lieu, ça pose quelques contraintes, mais que les concerts soient finis à 11h, grand maximum. Donc à 11h, les gens, même si les gens sortent, c'est 11h du soir, c'est pas tous les jours qu'il y a des concerts comme ça. Très souvent, ça finit à 10h, 10h30 pour les plus gros concerts, parce qu'il y a plus de manutention aussi après, donc on termine un peu plus tôt pour que les techniciens aient le temps de remballer le matériel avant minuit. C'est vrai que quand on roule des caisses ou autre à minuit, minuit et demi, ça fait du bruit dans la rue. C'est comme un transporteur qui ferait une livraison. Bon, on les comprend. Donc on a toujours essayé de s'adapter. Bon, aujourd'hui, ça se passe relativement bien. Même avec les nouveaux voisins, on a eu quelques réunions. On a discuté de leurs problèmes, des nôtres. Et on essaie de trouver un modus vivendi à peu près cohérent.
Vous êtes content de vos nouveaux propriétaires ?
Pour l'instant, on en est content. Maintenant, je pense qu'on a affiné aussi nos relations, aller un peu plus loin dans nos relations. Il y avait une grosse volonté que les choses se fassent et les choses se sont faites. Maintenant, il faut qu'elles se fassent, c'est-à-dire qu'elles se réalisent. Donc, il y a des tranches de travaux prévues qui nous permettront, nous aussi, à partir du moment où ces travaux seront faits, d'effectuer un certain nombre de travaux chez nous. L'idée, c'est quand même que d'ici 2 ans, on ait de nouveau une salle qui soit performante pour les 15 années qui viennent. Quand je dis performante, c'est-à-dire qu'il soit tout à fait au bout du jour, tout en restant dans notre configuration, c'est-à-dire de capacité, de centre-ville, etc. Mais qui permet d'avoir des artistes avec un rapport qui n'existe pas dans d'autres endroits. Quand je dis d'autres endroits, c'est-à-dire dans des choses beaucoup plus grosses.
Comment ça s'est passé, le changement, au moment où justement la ville est rentrée dans le jeu ? Il y a eu un risque à ce moment-là que le Rockstor finalement disparaisse ?
Oui, le risque c'était que le propriétaire, l'ancien propriétaire des murs, lui, là aussi voulait se débarrasser un peu du Rockstor. Il avait beaucoup de mal à le faire parce qu'il y a beaucoup il y a pas mal de temps qu'il essayait de réaliser, de vendre le Rockstor, mais il n'y arrivait pas du fait de notre présence et du fait aussi que on avait quand même un certain nombre d'atouts dans notre poche qui empêchaient de le faire.
Il y a des contraintes. C'est un bâtiment qui est en partie classé.
C'est un bâtiment classé, puis nous on était locataire avec un bail, on avait tout un tas de choses. Bon, après il y avait une volonté de la mairie à ce moment-là, un bon concours de circonstances, qui était de aussi pas déshabiller le centre-ville, puisque quand même c'est un centre-ville d'une ville étudiante qui vit pas mal la nuit aussi, et de pas le déshabiller pour ne serait-ce qu'au lycéum ou des choses tout autour, puisque aujourd'hui bon, les gens doivent prendre la voiture, aller dans le parking, etc., etc. Or, en même temps, il y avait tout un tas de lobbying sur le fait de beaucoup d'étudiants n'ont même pas de voiture, beaucoup d'étudiants se déplacent en tram ou peuvent se déplacer à pied. Bon, le Rockstor présente des atouts du fait de sa position en centre-ville, où il y a toujours quand même des taxis parce qu'il y a la gare, où il y a le tram jusqu'à une certaine heure, où il y a le train pour rentrer le soir ou le lendemain matin, etc. Enfin, donc ça pose quand même un certain nombre d'avantages. Et puis je crois que la ville avait aussi envie d'avoir quelque part en centre-ville un endroit qui finalement est un endroit à la fois culturel, à la fois ludique, qui correspond bien à la limite aujourd'hui aux aspirations et d'une ville comme Montpellier, d'avoir quelque chose dehors qui soit pour les jeunes, avec ce côté un peu culturel et un peu ludique. C'est...
Vous voulez pérenniser finalement un endroit où le soleil ne se couche jamais?
Je pense que c'est leur idée, enfin, en tout cas de pérenniser un endroit comme ça. Bon, le soleil ne se couche jamais, ça c'est un slogan. Bon, mais je crois que ce slogan, il partait aussi de ce genre de sentiment, justement, de vouloir dire Montpellier c'est une ville du sud. Bon, finalement, on a l'impression que Montpellier, le centre-ville, meurt un peu, ou en tout cas que de temps en temps, il y a un peu de zones qui s'installent, parce que justement, il meurt. Bon, on sait très bien que quand il n'y a rien, petit à petit, s'installe davantage ou d'insécurité ou davantage de mal-être. Alors nous, on a un public qui est spécial, on a un public de jeunes, on a un public qui peut être punk, qui peut être blues ou qui peut être chanson française. Ces gens-là, ils viennent, c'est des gens qui viennent, ils sont tout à fait, même s'ils sont habillés de façon différente, ils sont tout à fait dans l'air du temps, quoi. C'est pas des gens qui sont gênants. La nuit, ils bougent, mais on est en centre-ville. On n'est pas dans des endroits résidentiels. Alors, je dis pas qu'il faille crier toute la nuit, les villes d'étudiants, ça a toujours été des villes où il peut y avoir tout d'un coup une petite explosion de cris, de joie, de si. Bon, ça a toujours été comme ça. Nous, on le fait un peu plus fréquemment, certes. En même temps, on est dans un quartier qui est le quartier de la gare aussi, où historiquement, dans toutes les villes, les quartiers de gare sont toujours un peu plus bruyants que les quartiers excentrés ou les quartiers proprement résidentiels ou autres. Et c'est un choix politique, je pense, de la ville. C'est un choix de ville aussi, de ne pas vouloir complètement... D'ailleurs, on voit qu'il y a davantage d'endroits ouverts plus tard aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc de ne pas vouloir enterrer complètement le centre-ville, quoi. Moi, je trouve ça tout à fait louable.
Michael de la Fosse, bonjour.
Bonjour.
Pour quelles raisons vous vous êtes engagé sur le Rockstore au niveau de la ville de Montpellier?
Ben, le Rockstore, c'est une salle mythique à Montpellier. C'est une salle qui a accueilli des très grands groupes, qui à l'époque étaient des petits groupes. C'est un lieu de la vie nocturne, c'est une salle de concert mythique. Et donc, quand celle-ci a connu des difficultés, en l'occurrence le risque de disparaître, puisqu'elle aurait pu être vendue à des propriétaires, c'était une salle privée à l'origine, être vendue à des gens qui auraient voulu faire une autre activité que ce qui fait l'âme du Rockstore aujourd'hui, une salle de concert, bah, nous est apparu au niveau de la municipalité comme perdant un pan de l'identité culturelle de la ville de Montpellier. Et donc s'est posé une question à nous, que faisons-nous si cette salle disparaît? On a décidé de la racheter pour qu'elle puisse pérenniser son activité et de conserver l'équipe actuelle qui a toute latitude de programmation. Et quand on regarde bien, ce choix-là, c'est un choix un peu singulier, parce que dans plein de villes de France, les salles ont fermé dans les cœurs de ville, se sont installées en périphérie. Eh bien, Montpellier va conserver sa salle de concert en centre-ville. D'abord, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on veut perdre une salle de concert ou est-ce qu'on veut la garder? Est-ce qu'on veut une scène où les artistes peuvent se produire? Ou est-ce que les artistes peuvent rencontrer leur public? Le public rencontrer des choses différentes, variées, riches, enfin, comme le Rockstore. Donc on a tenu bon. Il y a des riverains qui ont contesté cette décision-là. Il y a des riverains qui l'acceptent, qui comprennent et qui nous disent par contre, aidez-nous à mieux accompagner l'insertion du rockstar dans le quartier. Ce qu'on va faire par une opération d'urbanisme du Quai Clin, une probable piétonnisation, un dispositif de prévention de la police municipale qui sera renforcé. Mais Montpellier, c'est d'abord une ville culturelle, dynamique. On a même dit dans une campagne de communication, la ville où le soleil ne se couchait jamais. Et donc il était légitime qu'une salle en centre-ville qui pouvait accueillir des soirées, des concerts jusqu'à tard le soir, elle puisse exister. Donc c'est aussi une question de choix politique. Bien sûr, il faut être respectueux des riverains, mais aussi de dire, bon, il s'agit de l'âme culturelle de la ville.
Qu'est-ce qui va changer concrètement dans le Rockstore ?
Alors, concrètement, ce qui va changer, c'est la propriété des murs. C'est maintenant la ville de Montpellier, donc les Montpelliérains qui sont propriétaires du Rockstore et de la Cadillac. On ne touchera à rien de ce côté-là, rassurez-vous. L'équipe actuelle va rester en place, donc elle va avoir sa totale liberté de programmation. Et par contre, nous avons aujourd'hui le maire de Montpellier m'a demandé de voir comment l'État et d'autres collectivités pouvaient s'engager pour financer des travaux de réhabilitation du Rockstore. D'abord garantir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, faire les travaux de réhabilitation de la toiture qui est en mauvais état, essayer d'améliorer l'accueil des artistes du point de vue des loges, si votre émission porte sur les coulisses du Rockstore, peut-être un sujet que vous évoquerez, et puis travailler sur l'acoustique du lieu pour qu'on ait une grande salle de musique actuelle en plein cœur de Montpellier. Donc il va y avoir des travaux. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de trouver des financeurs pour savoir à quel niveau on peut aller. Et ensuite, on établira une programmation de ces travaux de telle sorte à ne pas fragiliser le lieu et son activité et qu'il puisse avoir sa saison le plus sereinement possible.
Vous, à titre personnel, souvenir du Rockstore comme ça, à chaud?
C'est un peu... c'est un dossier... Enfin, cette salle... Moi, j'ai un souvenir perso d'une fin de soirée dans la boîte de nuit. Mais j'en ai un souvenir d'abord comme responsable politique. Ça faisait à peine 2 mois que j'étais dans ma prise de fonction d'élu à la culture. Tout le monde me disait que tu épouses une cause perdue, ça sert à rien. Et au final, c'est à l'unanimité que le conseil municipal a voté le rachat du Rockstore. Et ça, je crois que c'est quand même un bel enjeu. Et maintenant, j'ai plaisir à y aller. Je suis allé récemment, il y a quelques temps, au Bal des Maudits avec Dimonet. Super soirée. Je suis allé voir Roland Luce, avec qui j'avais parlé du Rockstore. Ça m'a fait rire. Il y avait plein de parents avec leurs ados. Ben, quand on voit des images comme ça, on se dit, voilà pourquoi il faut cette salle de concert. Bref, tout le monde a son histoire avec le Rockstore. Moi, j'en ai une histoire en tant que public, mais c'est pour moi un des éléments dont je suis assez heureux dans ma fonction d'élu à la culture à la ville de Montpellier, d'avoir pu régler ce problème. Voilà, c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister.
C'est la guerre autour de nous, mon amour. Allez, à vous. À vous que ça te fait du bien, que ça te fait plaisir. Qu'on fait ça pour rien, juste pour se faire rugir, pour se faire rougir. Et toujours tout, puisque c'est parti je ne sais où. Plus de romantisme, plus rien comme appui, puisque c'est parti. C'est la guerre autour de nous, mon amour, soudés sous les treillis, aux abris, sous la tonnelle de fusil. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. Je fais des balles au duvier, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. Je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où, je ne sais. On a condamné l'ouverture, on voulait voir éclore le bout du tunnel de l'aventure. J'ai creusé des tranchées sous ta bouche, pas douée pour les baisers. Je te reconnais dans cette trêve qui te va si bien, drapée dans l'étendard, défendant au glaive ton petit bout de territoire, mon petit bout de terrain, le petit bout de terrain. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. Je fais des ballots du lierre, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. On est vivant, mon amour, on est des géants. Le reste ne vaut rien, c'est la guerre autour de nous. On est vivant, mon amour, on est des géants. Le reste ne vaut rien, c'est la guerre autour de nous. Et c'est reparti, mon amour, les camouflés, dissimulés, ensevelis, dévastés par les assauts répétés. On est vivant, mon amour, on est des géants, c'est la guerre autour de nous. J'ai planté des narcisses dans tes gerçures, attendant qu'elles fleurissent. Je fais des ballots du lierre, grimpant sur ta figure, puisque c'est parti. Je ne sais où.
Avoue que ça te
je
fait
ne sais où.
Qu'on fait ça pour rien.
Je ne sais
juste
où.
Pour se faire rugir. Pour se faire rougir. Pour se faire rougir.
La grande salle en journée, le lieu de la technique.
Voilà, ça c'est le cœur du Rockstore. Donc là, on a une livraison de bière, mais après il y a les. Ce soir on a un duel rock, alors il y a les techniciens qui sont en train de mettre la salle en place. Techniciens que tu connais peut-être, il y a Yacine.
Bonjour. Salut. Salut.
Et Jérôme.
Salut.
Salut. Tous les deux techniciens nous sont. En tout cas, il y a notre stagiaire et puis il y a Thomas qui fait les. Qui fait du light.
Là, vous avez un équipement fixe quand même au niveau.
Oui, oui, on a du matériel en son, du matériel en light, bon, qui évolue énormément tous les ans, qui coûte cher. Donc, c'est vrai que le temps tourne un peu limite, mais bon, on essaie quand même de. Bon, puis après, on loue beaucoup de choses aussi, souvent les concerts, parce que chaque concert a un peu son installation un peu propre. Donc, il y a chacun qui veut tel type de light, tel type de son, tel type de truc. Bon, après, nous, on a un produit qu'on propose à tout le monde et puis voilà, on adapte.
Salut les deux ingé son maison, ça va?
Moi je suis pas d'ici.
Ça va Jérôme?
Ça va.
Duel rock ce soir, classique?
Oui monsieur, super.
Tu connais les groupes?
Pas encore, c'est toujours une surprise.
Tu connais leur nom?
Pas du tout.
Tu fais quoi dans ces cas-là?
J'attends qu'ils arrivent.
Ils arrivent, tu fais la balance, voilà. Tu vois avec eux. Ça enchaîne là en ce moment, hein?
Un peu.
Ouais. Sur les 10 derniers jours, il doit y avoir 9 dates ou un truc comme ça, non?
Un truc dans cet esprit-là.
Ouais. C'est pas trop dur, ça?
Bah non, c'est bien. S'il y a des concerts, c'est bien.
Toi, t'es intermittent?
Je suis intermittent, ouais.
T'as que le Rockstore comme employeur?
Non, j'en ai d'autres. Je passe pour des prods extérieurs, pour des boîtes de prestat de temps en temps.
En même temps, ça te permet d'avoir une assise.
C'est ça.
C'est une bonne salle?
C'est super.
Ouais.
J'adore.
C'est la plus belle.
C'est la plus belle?
Bah ouais.
En même temps, elle est dure à sonoriser.
Non. C'est pas facile, mais c'est pas dur.
Qu'est-ce qui est pas facile? La caisse?
Peut-être, ouais.
L'autre jour, il y avait Tété qui était là, qui a fini par un morceau acoustique et qui disait qu'en acoustique, c'était super. Bon, après, en amplifié, c'était plus compliqué.
C'est ça. Mais bon, ça marche quand même.
Ouais. Ça fait 25 ans que ça marche.
C'est ça.
Enfin, il y a quelque chose de spécial dans cette salle. Et c'est apparemment la soirée des trucs spéciaux. Des premières fois, il y a une très jolie acoustique dans cette salle. Et la musique que j'essaie de jouer, les types qui l'ont inventée, il n'y avait pas l'électricité. Là où ils vivaient dans le sud des États-Unis il y a quelques dizaines d'années, alors ils écrivaient des morceaux. L'idée, c'est qu'ils gardaient le morceau quand, sans être amplifié, la voix pouvait passer. Et du coup, nous, on a de la chance, une nouvelle génération, on joue avec des sonos, puis des ingé-sons et tout. Mais je me dis, dans une jolie salle comme ça, ça donne envie d'essayer en acoustique. C'est un challenge en même temps parce que je suis tout seul contre l'altitude. Mais je vais quand même essayer. Allez!
Yossine, toi tu fais quoi ici?
Je suis le binôme de Jérôme.
C'est-à-dire quand Jérôme...
Quand Jérôme n'est pas là, je suis là, et quand je suis pas là, il est là.
À vous deux, vous faites combien de dates ici dans l'année?
Ici au Rockstore, on est à peu près 160 concerts par an, à peu près. On doit facilement faire 100 chacun.
Quand vous bossez ici, vous bossez quoi, de midi à minuit?
À peu près, ouais, en moyenne, ouais.
Il y a beaucoup de groupes qui arrivent avec leur propre ingé son ?
Pas mal, ouais.
Maintenant, j'ai l'impression de plus en plus.
De plus en plus. Ouais.
Dans ce cas-là, tu fais quoi ?
Je suis là pour que tout se passe bien pour lui.
Ouais. C'est facile de passer la console, hein ?
Ouais.
Pourtant, c'est une bestiole classique.
Oui, rien de...
Elle a quel âge, celle-là ?
Pas beaucoup, ouais. Quoi, elle a 6 ans ? Elle a 6 ans.
Ils ont changé de ces eaux-là.
Elle a 6 ans, ouais.
On peut tout faire, ouais.
Sauf le café.
She told me I was taking her places she'd never been before, but really, she was taking me places I promised myself I'd never go to. Damn. Let me start at the
honey, for your mouth.
Yeah, yeah, yeah. One, two. Some say she was from Cali, some say the Carolinas. Mom was a belly dancer, pop was a neverminder. No drugs or alcohol and no weed or marijuana. You think that backstage was the last place you'd find her? First time I saw her kinda reminded me of them chicks you see at Carabana. Friendly and talkative and looking so marvelous. Had that nigga Tay feeling like Lil Zay in the city of goddesses. But I'm digressing, please pardon if I start trailing off or fading out of my car.
Et après on franchit le rideau, ce rideau que tout le monde regarde souvent avec désir parce qu'on sait que les artistes sont là.
Alors là c'est un peu le backstage, bien que bon, après ça monte sur les loges. Là c'est effectivement c'est juste le moment avant de monter sur scène. Donc c'est très simple ici, on est très proche du public puisqu'il y a juste un petit rideau qui empêche. Après il y a une montée aux loges qui est un peu difficile dans certains cas pour certains artistes quand ils ont un peu vu ou autre. Parce que c'est un escalier en colimaçon mais à double rotation. C'est-à-dire qu'un coup ça part dans un sens et puis à partir de la moitié ça part dans l'autre.
On m'a raconté l'exploit d'un des grands DJ du jeudi soir, Monsieur Garfield.
Oui, il y a certains qui ont fait les descentes.
Il y a 15 jours, je crois, c'est carrément très mal.
Il y en a certains qui ont fait les descentes une fois. Alors bon, donc dans les loges, première loge, avec ses bouches, bon, tous les ans on essaie d'y faire un peu quelques travaux. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu, de temps en temps, ça paraît un peu vétuste sur certains plans, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on aura des réparations un peu structurelles faites, on pourra faire mieux. Là c'est une deuxième loge, un peu plus tranquille, un peu plus arri.
Elles ont vraiment, on est dans l'imaginaire rock quand même, avec ces vieux canapés en cuir. Et...
Complètement, oui. Complètement, bon, cela on va les changer à la rentrée. Ils ont fait leur temps maintenant, mais c'est vrai que bon, c'est... À une époque aussi, aujourd'hui c'est plus le cas, mais les groupes étaient beaucoup moins respectueux des loges, des choses comme ça. Alors très souvent on se faisait outer, ou même un peu... Aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas. Les groupes rock étaient un peu sages, mais quand ils se retrouvaient après le concert pour boire un coup, c'était des fois un peu... Bon, ça a évolué.
Les besoins, les fiches techniques de l'artiste ont évolué, c'est-à-dire les petits trucs comme ça, la bouteille de rhum, la bouteille de...
Ça reste quand même à peu près déjà, à l'époque ils avaient déjà de gros, de gros besoins. Aujourd'hui, ils en ont encore un, mais ça a un peu évolué. Mais ils ont d'autres besoins. Enfin, ils ont tout un tas de trucs. Alors, il y a tous les, beaucoup aussi de végétariens qui ne veulent pas citer végétaliens. Il y a beaucoup de gens qui veulent boire ça et pas autre chose. Même dans la marque de la vodka ou du whisky, il y en a qui veulent des cigarettes, il y en a qui veulent des...
Oula, alors là, là, on connaît pas du tout. Là.
Bon, là, c'est une réserve.
Là, on arrive sur le balcon.
Donc voilà, ça, c'est le balcon. C'est là où il y avait le restaurant à une époque. Le balcon qui, aujourd'hui, est plus du tout ouvert.
C'est un projet de réhabiliter le balcon? Plus du tout?
Si, un projet. Non, non, si, ce serait très bien pour gagner une centaine de personnes de plus. 150, parce qu'on ne peut pas mettre non plus, c'est pas un endroit pour bourrer de personnes, ce qui permettrait d'avoir un petit endroit un peu au-dessus. Bon, après, question concert, pour la visibilité, c'est sûr qu'on a un accès direct sur la scène qui est tout à fait un angle, qui est tout à fait joli et original et très proche de l'artiste, on est quasiment sur la scène. Niveau son, c'est quand même mieux en bas toujours qu'en haut, puisque le son il est fait pour arroser la salle et pas du tout pour arroser en l'air, quoi. Alors on entend, mais c'est sûr que c'est moins...
Et si c'est un endroit où vous vous retrouvez quelquefois, les gens de l'équipe, pour regarder un petit peu un privilégié?
Moi je sais que j'y passe quoi. Enfin, ouais. Tout le temps, mais sur tous les concerts, j'y passe toujours un peu pendant les balances et toujours un peu le soir, parce qu'on a un autre angle, et puis un angle un peu plus privé, quoi. Un peu plus... Donc un peu plus direct sur le groupe.
Ça c'était quoi avant ici?
Ça a été le restaurant, un temps, et puis à l'époque, où, avant le Rockstore, quand c'était un cinéma, c'était un balcon de cinéma, comme il y en avait dans tous les cinémas, c'est-à-dire il y avait un parterre, et puis il y avait le balcon. Mais... En fait, il y avait une cabine de projection qui était derrière, et qui l'écran qui est en bas.
Je crois avoir vu encore l'inscription cabine de projection.
Voilà, parce qu'il y en avait plusieurs cabines, il y en avait une qui était en haut, et puis là, il y avait une autre petite salle de cinéma, là où il y a le fumoir aujourd'hui. Donc là, il y avait une petite salle de cinéma, puisqu'à une époque, le cinéma, il y avait une salle principale de cinéma dans ce cinéma, et dont une petite qui faisait une cinquantaine de personnes. Some say she was from Cali, some say the Carolinas. Mom was a belly dancer, pop was a never minder. No drugs or alcohol, no weed or marijuana. You think that backstage was the last place you find her? You think that backstage was the last place you find her? Love on me. Voilà, donc là c'est l'étage où le soir il y a un DJ qui joue. À une époque c'était un café jazz, maintenant c'est un endroit plutôt voué à l'électro. À l'époque c'était un café jazz, il y a toujours eu une ambiance un peu différente en haut et en bas. Donc ça a toujours été en bas. Le café jazz en fait il était fait, café, on l'avait appelé café jazz, pour faire une musique différente d'en bas qui était le café rock. Donc c'était du jazz, du blues, tout un tas de musique qui n'était justement pas le rock un peu mainstream qui se jouait en bas, quoi. Mais aujourd'hui c'est plutôt électro, et là aussi il y a besoin d'avoir un certain nombre de réparations qui soient faites parce qu'on a subi quelques orages.
Et avec un des derniers aménagements qui est le fumoir.
Qui est le fumoir, ouais. Bon, depuis la loi sur le tabac, donc on a été obligé un peu d'ouvrir... cet espace, donc on a pour nous c'était un peu le plus pratique, même si aujourd'hui il est insuffisant pour l'ensemble de la salle. Mais après, vers là-bas il y a les WC de l'étage, et de l'autre côté l'administration. Alors là on est dans le bureau. Voilà. Un bureau qui donne directement dans la rue, avec une grande baie vitrée.
Une grande baie vitrée qui donne directement sur Bedos et fils.
Sur Bedos et fils et tous nos voisins d'en face. Bedos et fils qui est qui est plus ancien que nous encore dans la rue de Verdun, mais qui est un des derniers anciens de la rue. Si on considère que nous aussi on est un peu anciens aujourd'hui après 24 ans.
Là l'administration a toujours été ici.
Elle a toujours été ici. À l'époque, il y avait même une partie au tout début, avec une partie qui était dans les loges, dans la première loge. Puis après, on a grandi les loges.
C'est à l'époque où ça battait son plein avec la radio, pas mal de journalistes et tout. Comment ça fonctionnait?
La radio, disons qu'elle avait son studio. Alors, au tout début du Rockstore, c'était à l'étage. Donc elle occupait toute la partie ronde de l'étage. Donc elle avait ses bureaux et les studios dedans. Plus l'étage comme balcon pour recevoir les gens ou autre, donc ce qui permettait quand même, ce qui faisait quand même pas mal de place. Puis après, elle a été déménagée en bas, parce que là, elle était entre le café et la grande salle, ce qui permettait d'avoir, comme on disait tout à l'heure, les artistes directement de la salle à la radio, puis après qui se mélangeaient avec le public. Les bureaux de la radio, fatalement, ils étaient ici. Mais puisque c'était toujours les mêmes qui s'occupaient de la radio et du Rockstore, ça gênait pas puisque la gestion elle était faite en fait dans le même bureau par les mêmes personnes. Après, quand on reçoit des gens, on les reçoit plutôt dans ce bureau, on n'y reçoit pas grand monde parce que justement il y a de temps en temps c'est un peu la ruche, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses différentes qui s'y passent. Et donc quand on reçoit des gens, on les reçoit plutôt en bas au café que dans le bureau lui-même, quoi. Le bureau, on y reçoit après les concerts, souvent, on y fait les comptes, on fait des choses comme ça, donc on est avec les producteurs, ou très souvent avec les artistes qui aiment bien, certains qu'on connaît, ou avec qui on a des liens un peu plus étroits, qui aiment bien venir après discuter avec nous un peu ici, ou discuter du concert, ou écouter des disques sur les derniers trucs qu'on a reçus, ou des choses comme ça, quoi.
Vous recevez beaucoup ?
Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que tout se fait par Internet, c'est-à-dire on envoie des liens, donc c'est beaucoup plus beaucoup moins fréquent. Mais à une époque, on recevait jusqu'à 20-30 disques jour, quoi. Donc ça fait sur l'année, ça fait beaucoup, quoi.
Un jeu de fléchettes, un coffre-fort, une calculatrice,
des ordinateurs. Il y avait des murs qui étaient recouverts, mais qui ont été malheureusement inondés il y a 2-3 ans, et sur lesquels il y avait tout un tas justement de vestiges de choses qu'on colle comme ça, de photos d'artistes ou de photos dédicacées. Là, il y a un bureau, par exemple, qui était mon bureau jusqu'à il y a encore quelques jours, qui est maintenant celui d'Olivier, sur lequel le chanteur des Black Crowes, un jour qui était passé à Grammont avec en première partie des Stones, mais il était venu la veille au soir au Rockstore, donc on avait sympathisé et il m'avait signé le bureau, comme il savait que j'étais un grand fan.
Ah, même le bureau.
Donc il y a Chris Robinson qui a signé ici, à Fifi. Alors ça remonte à quelques années, puisque c'était pour les Rolling Stones, c'était, je sais pas, 94-95.
Ouais, ça tient.
Et donc voilà, et depuis j'avais...
J'avais mis un sous-verre quand même.
Mis un sous-verre pour le protéger, parce qu'en plus les Black Crowes étaient un des groupes qu'on aimait bien. Et donc c'était un groupe culte, donc ça faisait plaisir de les recevoir ici. Surtout qu'ils ne jouaient pas ici.
C'est un old Otis Redding number that we do.
Calls of mama, I'm sure I'd handle now, yes, I ran. Black trousers speak loud in the birds, and I'm a man with the greatest fear. Got the knock on me, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Advertising love more crazy, so you can place a bet with me. Kennel calls her mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Hey, hard to handle that.
J'ai travaillé longtemps d'abord sur la radio.
Olivier Laurent, prince de la nuit.
Au sein du Rockstore. Non, nous n'allions devenir associés qu'en 95. Mais entre-temps, il y a une bonne période où que... Ben, j'ai commencé à découvrir un peu la nuit, hein. Pas que j'y suis tombé, mais il y a un moment donné, la radio, c'est un fruit au sein du rockstar, mais il fallait absolument que je mette un peu la main à la pâte. On était dans un lieu. Non, je l'aurais pas cru que je travaillerais un jour la nuit comme ça.
T'imaginais quoi à l'époque ?
Tu sais que je suis le prince de la nuit.
Eh oui, maintenant tu es le prince de la nuit. Mais c'est vrai que t'es pas un octambule, Olivier.
Et non, mais bon, pourtant, tu vois, je suis dehors toutes les nuits. J'ai trouvé mon intérêt, ouais. Hein, des fois partir vite fait à l'égal pendant la journée. Et je t'ai parlé de ces vagues tout à l'heure, bon, bah, ça m'emplit. Hein. Et puis ça m'a permis aussi de m'occuper en journée énormément de mon petit.
Ouais.
Voilà, il m'est arrivé de faire jour-nuit. Hein. Peu dormir, mais...
Ouais, je connais ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est une façon de t'organiser. Et c'était la place que les autres voulaient t'apprendre ?
Disons que j'ai fait une petite halte en Martinique. Donc en revenant, bon, ben, c'est évident que c'est quand même pas le plus confortable pour une vie de famille.
Ouais.
Tu vois, j'ai pas de famille.
T'as qu'une planche et un fils, quoi.
Voilà, et un fils. Et de la
famille. Et du coup, c'est toi qui squatte ici le plus de nuits
sans problème, bien sûr. Quand je t'ai présenté là, autour du prince de la nuit, oui, je suis là la plupart des nuits, bien sûr.
Tu fais 4 nuits par semaine ?
Voilà, j'en faisais les 5, mais là, ça s'est un peu réduit, vu mon grand âge. Voilà.
C'est dur en même temps de tenir l'âge. Non ?
Aujourd'hui, il n'y a plus de cigarettes dans le rockstore, donc ouais. Moins de fumée, déjà, c'est pas mal.
C'est plus facile ?
C'est plus facile, tu vois, t'es pas obligé de t'épingler tout entier sur ta terrasse pour que la fumée de cigarettes s'en aille.
Alors c'est quoi cette position de prince de la nuit ? C'est quand même vachement drôle. Le rockstore, c'est un des lieux les plus ouverts de la ville,
ouais.
Les moins filtrés à l'entrée, les plus accessibles en termes de public.
Ouais.
C'est en plein centre-ville. Et toi, là, t'es là, tu règnes du mercredi au samedi sur ce truc.
Je règne. Je pense que c'est un grand mot, tu vois, régner.
Non, ouais, c'est un grand mot.
Le prince. Attends, moi, je rêve qu'une chose, c'est d'être calife à la place du calife. On en parlera.
Il est loin.
Il fait pas la nuit. Il fait plus la nuit.
Et puis, il a 20 ans de plus que toi, non ?
30. Non.
C'est quoi le rockstore la nuit ? Parce que du coup, t'es moins dans la partie concert.
Écoute, de plus en plus, je viens au concert. C'est quand même celle la plus, c'est ce qui me fait le plus vibrer quand même tous ces concerts, tu vois. Puis finalement, si pour peu que je commence, que j'arrive, allez, bien après la balance, au milieu de la première partie. Finalement, ces artistes, la plupart du temps, là, je l'ai vu hein, récemment pour Yuxek. Pour les Bloody Bedroot.
Ouais.
Encore il y a quelques jours pour Gaëtan Roussel. J'ai fini la nuit avec eux. Non, c'est assez drôle, tu vois. C'est bien. C'est bien, je peux rencontrer des gens que j'aime beaucoup. Bon, la nuit en tant que telle, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Enfin, très vite, ici au Rockstore, les concerts enchaînent avec la nuit. Et donc, il y a beaucoup de monde et que ça booste. Moi, je suis ravi.
En même temps, souvent, c'est pas le même public. Le public du concert sort,
bien sûr.
Et puis t'as le public de la nuit.
T'as plein d'amis ou des amis qui viennent encore au concert et qui vont longtemps, tu vois, qui s'apprêtent à... Il n'y a pas d'âge, mais bon, tu sais, chaque année, les gens qui sortent ont le même âge.
Ouais.
Voilà, donc quelqu'un qui a 26 ans a déjà quelques années de route au Rockstore, tu vois, il se souvient qu'en commençant ses études, il venait au Rockstore, imagine à 30, imagine à 40, et à un moment donné, tu viens plus ou tu viens à l'occasion de concerts, peut-être de grosses soirées, mais bon, on sort pas toute sa vie en boîte de nuit.
Non. Et du coup, t'as cette clientèle.
Dommage, j'arrête.
T'as cette clientèle à étage là, les ceux oui, qui sont là depuis 20 ans et comme tu dis, les 20 ans qui ont toujours 20 ans.
Ouais, voilà, ils ont 20 ans.
T'as vu passer 2-3 générations de noctambules. Il y en a qui commencent à avoir leurs enfants.
Leurs enfants.
Ah ouais,
mais largement, c'est leurs enfants qui sortent déjà au Rockstore. Ouais. Mais bien sûr, tu vois, j'ai 46 ans. Ben, j'ai des amis qui, bien sûr, ont des enfants de 20 ans, donc ils sortent déjà depuis 2-3 ans, tu vois. Il y a 4 ans, ils essayaient de moufter à l'entrée pour passer gratos, pour peu qu'il ait un peu de poils à la barbichette, ils passent. Donc, pouf, non, c'est plus un problème, les générations.
T'as l'impression d'être toujours aussi libre que tu l'étais il y a 20 ans quand tu faisais de la radio et du surf ?
Libre. Disons que cette aventure de la radio qui aura duré carrément 15 ans, hein, j'aurais fait ces 15 ans de radio, où très vite dans cette radio on a été payé, donc payé pour ta première passion. Mmh. Il est évident que c'était que du bonheur, ça allait peut-être pas durer une vie, ce n'est pas comme être bateau de boîte de nuit, mais bon, prince de la nuit, tu imagines à qui j'ai affaire. J'ai plein de gens très sensés qui perdent quand même la tête la nuit.
Oui.
Plus en plus gênante si c'est des collègues, tu vois, ils perdent vraiment la tête et s'en excusent, quoi, 24 heures après, quoi.
C'est quoi tes grands souvenirs d'ici ?
Ah, c'est fois des conneries que j'ai fait là. Ah, tu sais quoi, le dernier gros souvenir, c'est le slam que j'ai fait pour le concert d'OTH, pour les 25 ans du Rockstore. Ah là là, je m'en suis pas remis, hein.
Ouais.
Ah, c'est pu m'échapper juste après le slam, là.
Nous dédions cette chanson en hommage à votre accueil et à votre soutien. C'est une reprise de Tommy James qui s'appelle Money, Money. Nous l'avons intitulée Comptez sur moi.
Représente quoi pour toi la Cadillac ?
immortelle. Elle est là, elle rouille pas. Je fais les chromes une fois tous les 2-3 ans. Ça va, c'est une vraie Cadillac.
Comment tu fais les chromes? Avec l'échelle et tout ça?
Ouais, bah paille de fer, échelle, paille de fer. Il y a Tom qui la nettoie, on vérifie les feux. Fais pas la vidange, mais on fait les chromes, tu vois, les enjoliveurs, les deux enjoliveurs qui lui restent.
Alors tu sais que moi j'ai une théorie hein, sur la Cadillac.
Ouais, non.
Y a, dans le rock'n'roll, il y a deux Cadillacs. Il y a la Cadillac des Clash, là, la brand new Cadillac avec laquelle on se balade. Et puis il y a la Cadillac de Presley, et de Springsteen, etc.
De Springsteen, hein,
qui est une métaphore. Springsteen, il parle de la Cadillac pour parler du clitoris, en fait.
Il est gros,
hein. Ouais, mais en même temps, la ville est grande. Il faut un gros clitoris.
Celui qui saute et qui touche, là.
Il y en a qui s'amusent à ça? Non, c'est trop haut.
Non, c'est trop haut. Si, j'ai vu Rémi Gaillard sur la Cadillac, qui était une idée, finalement. Écoute, j'ai vu personne d'autre dessus.
Réalisation, François Barrez,
Vincent Cavaroc.